La voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Philippe Peyranas est professeur de classe à l'école Steiner Waldorf de Colmar depuis plus de 30 ans. Sa curiosité du monde vivant l'a amené à s'intéresser à la biodynamie et à l'anthroposophie. C'est naturellement qu'il est arrivé à l'éducation et la pédagogie Waldorf. Dans cette première émission La Voix du Kaizen, Philippe nous présente son parcours et nous introduit la pédagogie Steiner.
Alors, monsieur Peyranas, il travaille dans les écoles Steiner depuis 1982. Donc, j'ai commencé à travailler en Suisse, donc à Prattel, en tant que professeur dans une école Steiner. Pendant 4 ans, en 86, je suis arrivé à Colmar et depuis 1986, je travaille ici, donc là où nous sommes actuellement, dans l'école de Colmar.
Donc voilà, l'école Steiner, c'est vrai qu'elle est connue, c'est l'école Marne, mais l'école Steiner, donc qu'est-ce que c'est qu'une école Steiner? Comment est-ce qu'on pourrait la définir?
L'école Steiner, tout d'abord, il faut voir, à mon avis, c'est une école qui a été fondée donc en 1919, il faut le voir, tout de suite après la guerre. Donc il faut s'imaginer la guerre, qu'est-ce qui se passe juste derrière, catastrophe, les ruines partout. Et donc, il a été demandé à l'époque à Rudolf Steiner, en 1919, de fonder une école. Et donc, il a accepté de la fonder. Et cette école, elle a été fondée tout d'abord dans une usine. Donc, c'est une école qui a été fondée sur demande d'ouvriers, d'ouvrières. Et pas n'importe quelle usine. La Waldorf Astoria, c'est une usine de fabrication de cigarettes. Donc, l'école Waldorf a été fondée tout d'abord, donc à Stuttgart en 19, dans un endroit où on fabriquait des cigarettes. Et c'est Rudolf Steiner lui-même, donc qui est le fondateur de l'anthroposophie, ça fera peut-être en causer un moment ou un autre, qui a formé les professeurs. Et donc, suite à ça, l'école a démarré et aujourd'hui, c'est un mouvement mondial. Donc, il y a des écoles Steiner absolument sur tous les continents. Et partout, et y compris ici à Colmar, c'est pour dire. Et donc, toutes les pédagogies ont, d'une certaine manière, une idéologie derrière elles. On peut considérer, par exemple, que l'être humain, c'est un sac vide à l'intérieur de laquelle on déverse des connaissances, et puis on le remplit. On a déjà entendu ça dans Rabelais et autres, les histoires de tête bien pleine et puis bien faite, etc., on connaît bien. Et puis, on peut considérer aussi, pourquoi pas, j'espère que j'exagère, un enfant comme un futur consommateur et l'éduquer pour qu'il consomme. Et puis, on peut aussi considérer l'enfant d'un autre point de vue. Et donc, dans l'école Steiner, on considère que l'être humain, il a une dimension impondérable, qu'on peut appeler spirituel si on veut, qu'on peut appeler autrement, mais il y a quelque chose dans lui qui est plus grand que ce qu'on voit. Et quand on parle d'éduquer un enfant, on ne tient pas compte simplement de ce qu'on a devant soi, comme ça, mais de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qu'on perçoit. Donc c'est une autre dimension de l'être humain.
Et vous, dans votre chemin de vie, qu'est-ce qui vous a amené vers l'éducation et pourquoi la pédagogie Steiner? Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Est-ce qu'il y avait déjà cette notion, cette compréhension que l'être humain était plus que ce qu'on peut percevoir?
Alors là, c'est quand même une longue histoire. Par quel chemin on arrive à la pédagogie Waldorf? Donc moi, je suis né en 1956 et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles Steiner. Il y en avait quelques-unes en France, mais très très peu. Et donc, j'ai suivi un chemin extrêmement tortueux, puisque j'ai commencé par faire des études de chimie physique. Donc, ce qui m'a amené en contact avec les substances, d'une certaine manière, j'ai fait connaissance à l'école de chimie physique de Paris de ce qu'étaient les substances, les forces, etc. Et puis, quand j'ai eu terminé cette formation, j'ai complètement changé d'orientation puisque je me suis tourné vers les jardins. Et donc, j'ai fait un brevet d'études professionnelles agricoles spécialisé dans les jardins espaces verts. Et donc là, je suis passé d'une certaine manière du minéral au vivant. Donc, s'occuper des plantes, c'est pas la même chose que s'occuper de produits et de substances. Donc là, j'ai quelque part expérimenté pendant quelques années ce que signifiait maintenant travailler sur du vivant. Et puis, après avoir travaillé sur du vivant pendant plusieurs années, je me suis intéressé à l'alimentation, plus particulièrement. Et en travaillant sur l'alimentation, j'ai découvert la biodynamie. Et donc la biodynamie, ça c'est quelque chose qui m'a rapproché très fortement de la Suisse et puis du Goetheanum, là où, au Goetheanum. Et donc là, j'ai pour apprendre la langue allemande, parce que j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne cette langue-là, je suis allé dans une ferme. Et là, j'ai travaillé non plus simplement avec des plantes, mais avec des animaux. Donc c'est encore autre chose. Et quand je regarde ma biographie, comme ça, à l'envers, je me rends compte, je suis passé du minéral, ensuite je suis passé vers les plantes, ça m'a énormément intéressé de travailler sur les plantes, ça m'intéresse toujours du reste. Et ensuite, j'ai travaillé avec des animaux. Et puis, au sortir de cette expérience, j'ai eu vraiment l'envie de me dire, mais Maï, ce que je veux, moi, dans ma vie, c'est travailler avec des êtres humains. Et donc, j'ai fait un séminaire, le séminaire de pédagogie, qui était à Dornach, à cette époque-là, Dornach en Suisse. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la pédagogie Steiner. C'était un long cheminement.
Et donc, c'est la biodynamie, c'est l'anthroposophie qui vous a emmené à la pédagogie Waldorf, parce que vous auriez très bien pu, à cette époque-là, vous dire, OK, je veux aller dans l'enseignement vers l'humain, mais suivre le parcours classique de l'éducation nationale.
Ouais, mais ce qui m'a interpellé dans la biodynamie, c'est précisément la dimension. C'est-à-dire que moi, j'étais issu d'une école d'horticulture absolument traditionnelle, où on considère les plantes d'une manière relativement étroite et étriquée. Donc, et quand j'ai découvert la biodynamie, j'ai découvert que derrière cette culture, il y avait une conception de la plante qui était beaucoup plus large, une conception cosmique de la plante, si je peux dire. Et les personnes qui travaillent avec la biodynamie travaillent aussi avec une autre vision des choses. Il s'agit de soigner la terre aussi. Donc ils ont une conception de la plante, de la terre, qui est beaucoup plus large que tout ce que j'avais pu percevoir à l'école d'horticulture. Et ça m'a fortement interpellé. De me dire, voilà, il y a des gens qui existent maintenant et qui disent, attention, une plante, c'est beaucoup plus que ce que l'on voit simplement. Ça pousse évidemment sur la terre, mais c'est en lien avec toutes les forces qui sont dans la périphérie, toutes les forces cosmiques, etc. Et on peut travailler avec ça. Donc cette vision absolument élargie de la plante m'a amené à me dire, mais comment est-ce qu'ils considèrent un être humain? Si déjà une plante, on la considère comme quelque chose de tellement immense, mais maintenant un être humain, qu'est-ce que c'est? Et donc là, j'ai plongé dans le séminaire de pédagogie. Et là, on a étudié le cours que Rudolf Steiner a donné aux pédagogues en 19, un cours sur la nature humaine, où je dois dire que je n'ai pas compris grand-chose. Et donc, j'ai juste perçu qu'il y avait là quelque chose d'extrêmement important, mais dont j'aurais bien été incapable de donner le contenu. J'ai juste perçu l'importance. C'est comme quand on lit un poème, par exemple. On dit, waouh, ça c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Mais on n'en sait rien pourquoi c'est magnifique. On a juste un ressentir. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. On ne peut pas l'expliquer. Et donc, moi, j'ai lu ces choses-là. Je les ai étudiées et j'ai trouvé que c'était d'une profondeur qui échappait complètement à mon entendement. Et donc, j'ai fait un travail, ça fait 30 ans que je travaille dessus, maintenant, et tout doucement, je commence à découvrir précisément cette vision de l'être humain qui est bien au-delà de ce que l'on peut tout simplement percevoir quand on a un enfant en face de soi. Et donc, de cette étude, elle est intéressante pour moi parce que plus j'étudie, et je dois dire que je l'étudie au quotidien, nous l'étudions dans l'école, nous l'étudions en collège, tous les jeudis on travaille des heures sur ces choses-là pour essayer de se faire ensemble avec les collègues une image de l'être humain qui soit le plus juste possible. C'est-à-dire pas coller quelque chose qu'on perçoit, pas coller quelque chose qu'on a appris ou une idéologie qu'on a, mais essayer réellement de pressentir la grandeur. Je peux peut-être vous donner un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Quand vous travaillez avec des enfants, comme ça, la tendance est relativement facile à avoir de coller des préjugés sur les enfants. Par exemple, de dire, bah ouais, celui-là, il est intelligent, ou celui-là, il ne l'est pas, celui-là, il est vif, celui-là, il est feignant, celui-là, paresseux, etc. On peut coller tout un tas de trucs sur les enfants, et même, on peut aller au-delà de ces préjugés, et puis, quelque part, juger du futur par rapport aux enfants, et dire, bah, celui-là, il va pas aller bien loin, ou celui-là, au contraire, il a un vaste avenir devant lui, etc. Tout ce qu'on peut entendre sur les enfants, et tout ce qu'on peut être aussi amené à penser, en tant que personne qui travaillons avec des enfants, de se dire maintenant, ah, celui-là, oui, ah, celui-là, l'avenir s'ouvre devant lui. Et quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, c'est mon cas, et que on croise des anciens élèves, des gens qui ont, en ce qui me concerne, maintenant plus de 40 ans, qu'on les croise et qu'on les rencontre et qu'on lui demande « Alors, qu'es-tu devenu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ?» etc. Là, on tombe de haut parce qu'on se rend compte que on ne peut pas savoir ce qu'un être humain va devenir. J'avais des élèves, quand ils étaient jeunes, qui frisaient la délinquance. On peut les retrouver aujourd'hui en tant que thérapeute. Qui aurait pu prévoir des choses comme ça? Ce dont je vous parle, c'est le fait que quand moi je me suis retrouvé au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, devant des anciens élèves, j'ai découvert que tout ce que j'avais pu penser à l'avance, tout ce que j'avais pu projeter, c'était du vent. Tout simplement. C'était du vent, parce qu'un être humain, c'est un point d'interrogation, et on ne peut pas jeter de plan sur l'avenir. Son avenir, il lui appartient. Et ce qu'il convient de faire pour nous, c'est pas de le remplir de tout un tas de choses, c'est de lui mettre entre les mains les rênes qui lui permettent d'aller vers cet avenir. Et là, il donne le meilleur d'eux-mêmes. Moi, j'en ai tellement qui m'ont réveillé sur la vision du fait que de toute manière, je dois accueillir chaque enfant comme une énigme et je n'ai rien à projeter sur lui, rien du tout. Ce qu'il va devenir, ça lui appartient. Moi, j'ai un autre travail à faire que de le remplir avec tout un tas de choses et surtout de le juger. Surtout de le juger. Ça, c'est pas des choses à faire avec les enfants, surtout les petits.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Alors là, on est justement dans votre salle de classe. Donc, quel est le travail du prof? Mais quelle va être la mission d'un enseignant dans la pédagogie Waldorf?
Il faut prendre ce problème par un bout. Et pour répondre à cette question, je dois essayer d'apporter quelque chose de cette image de l'enfant. Parce que quand vous avez un enfant en face de vous, et qu'on le suit, par exemple, dans nos écoles, on le suit, le même professeur le suit tous les matins, au moins de 8h à 10h, pendant 8 ans de suite.
Donc, ça, c'est intéressant. C'est dans la pédagogie Steiner, le professeur suit sa classe pendant 8 années.
Voilà. Pendant 8 années, on suit les enfants. Et ce qui nous permet de les suivre dans leur évolution. Le professeur principal, le professeur de classe, donne tous les cours qu'il peut, etc. Mais il y a aussi des professeurs intervenants pour l'anglais, pour l'allemand, pour le rythmie, qui viennent, qui complètent le tableau. Mais il y en a un qui est un fil conducteur. Quand il peut, évidemment, il y a des accidents, on peut tomber malade, il y a des professeurs qui partent à la retraite, ça change. Mais dans l'idéal, on essaye d'aller comme ça. Parce que, voyez, quand vous avez un enfant qui, à 7 ans, a des difficultés de lecture. C'était notamment le problème d'un petit auquel je pense là maintenant. À 7 ans, il avait du mal à lire. À 8 ans, il avait du mal à lire. À 9 ans, il avait du mal à lire. Mais on les suit, nous. On les suit les uns derrière, les années derrière les années. Et je sais que s'il ne lit pas à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, bien entendu qu'on s'inquiète. Mais il y a quelque chose qui peut être continué, qui peut être poursuivi jusqu'au moment où il va lire. Et c'est pas parce qu'il va commencer à lire à 9 ans qu'il sera un mauvais lecteur, bien au contraire. Il y a des enfants qui ont besoin de 3 ans, de 4 ans pour se lier à la lecture et à l'écriture. Et d'autres, ils arrivent à 7 ans, ils savent déjà lire. Tout simplement, au jardin d'enfants, ils regardent une bouteille d'eau, ils apprennent à lire tout seuls.
Donc il y a une notion de rythme en fait. Chaque enfant a un rythme d'apprentissage qui est différent. Et dans la pédagogie Steiner ou Waldorf, on est là pour écouter ces rythmes de l'enfant et pas apprendre ou enseigner la même chose au même moment à chaque individu.
On enseigne la même chose au même moment à la classe, mais on laisse à l'enfant le temps qu'il lui faut pour assimiler les choses, comme ça. C'est-à-dire que quand je fais un cours de calcul aux enfants, je fais le même cours de calcul à tous les enfants, mais il y en a certains, ils vont l'entendre, ils vont l'écouter, ils vont travailler, et puis on va avoir l'impression que ça leur passe largement au-dessus de la tête, et puis quand on va revenir, 2 mois, 3 mois après, sur la chose, ça va être assimilé. Pour certains, il va falloir 1 an, 2 ans, 3 ans pour assimiler la chose. Et donc, le fait d'avoir une continuité, c'est-à-dire de suivre les enfants d'une classe à une autre, comme ça, ça permet aussi de temporiser, de dire, je sais que là, il n'a pas franchi cette marche-là, mais l'année prochaine, vous voyez, on peut suivre marche par marche et lui laisser le temps. Je ne passe pas la classe à un collègue qui attend un certain niveau pour reprendre les enfants. Je me passe la classe à moi-même. Donc, je connais les différentes sortes de niveaux des enfants et je les reprends là où ils sont. Et je veux dire, quand on a travaillé 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans avec les mêmes élèves, on sait exactement où ils sont dans la chose. Mais je reviens à votre question initiale, qu'est-ce qu'on fait de particulier, hein? Je reviens à cette première question-là. Je disais, si on a cette idée maintenant de se dire, d'essayer de respecter le mystère qu'est un enfant. Respecter le mystère, c'est-à-dire ce qu'il est, ce qu'il va devenir, personne ne le sait, ni ses parents, ni ses professeurs, ni même lui-même d'une certaine manière. Ce qu'il va devenir, on ne sait pas. Je vous ai raconté brièvement ma biographie avant. Qui aurait pu dire que je deviendrais professeur Waldorf ? J'étais un mauvais élève. Et donc, personne aurait pu dire, celui-là, il va devenir pédagogue pendant 35 ans. C'était pas possible. Et donc, si on conçoit maintenant ce mystère-là, on peut se poser la question, mais où il est, l'enfant, s'il se révèle pas? L'idée de se dire, mais tout l'enfant, la totalité de son être, ce qui est essentiel, n'est pas dans l'enfant que je perçois. Il y a une partie de lui-même qui est autour de lui. Vous voyez, par exemple, les tout-petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent en permanence. Vous avez un petit enfant, on voit, vous mordez dans un citron, hop, en pintille, il va faire une grimace. Vous faites un geste, il fait un geste. Vous êtes devant une classe d'enfants de 7 ans, si vous commencez à bouger, ils vont faire les mêmes mouvements de bras, ils vont, etc. Ils imitent. Pourquoi? Parce que, avec une part de ce qu'ils sont, ils sont à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc, ils sont dans leurs parents, ils sont dans leurs professeurs, ils sont dans les gestes des autres, ils sont dans les paroles des autres, ils sont dans les intentions des autres, ils sont à l'extérieur d'eux-mêmes. On peut avoir cette image de l'enfant qui, d'une certaine manière, s'approche de lui-même par l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il n'est pas dedans et il grandit pas dedans, à l'intérieur comme ça. Ça, c'est peut-être une image qui n'est pas fausse, mais qui est en tous les cas partielle. Mais il est aussi autour de lui, il vit dans l'imitation des autres, et peu à peu, si tout se passe bien, il s'approche de lui. Donc nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ce qui est à l'extérieur de l'enfant, mais qui est quand même lui-même, s'approche peu à peu de lui et vienne l'habiter, vienne le réveiller. Faire que cet être extérieur qui est tellement beau, les petits sont tellement magnifiques, les petits enfants, ils sont tous très beaux. Et bien cette beauté qui est autour, il s'agit de faire en sorte qu'elle puisse venir et agir à l'intérieur. Donc, je dirais que notre rôle, c'est de faire en sorte que l'enfant qui est à l'extérieur puisse s'approcher de celui qui est à l'intérieur. Et puisqu'il est à l'extérieur, ça peut aussi faire comprendre pourquoi c'est un mystère. C'est pas dedans. C'est pas en regardant dedans qu'on va savoir ce qui va se passer. Il n'est pas à l'intérieur de lui-même, il s'en approche comme ça. Et on voit du reste, les gestes des tout-petits ne sont pas conduits comme les gestes d'un adolescent. Les gestes du tout-petit, ils sont conduits de l'extérieur. Les gestes de l'adolescent, ils sont déjà conduits de l'intérieur. Et il y a une certaine force, il y a quelque chose de musculaire qui apparaît. Qu'on regarde les mouvements des petits et on voit un enfant de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, 7 ans, le geste, ce n'est pas du tout la même qualité comme ça. Et donc, pour faire en sorte que l'enfant, d'une certaine manière, s'approche de lui-même par l'extérieur, là, on a des indications précises qui nous sont données qui nous ont été donnés par Rudolf Steiner, donc le fondateur de cette école. C'est des indications, c'est-à-dire que nous n'avons pas de programme scolaire. Nous avons un plan scolaire. La différence entre un programme et un plan, c'est que le programme, il vous dit A, B, C, D, E, vous passez par là. Le plan, on vous dit, tiens, tu dois arriver ici. Mais maintenant, tu peux passer par tous les chemins. Il y a une infinité de chemins. Donc, nous avons un plan. Et donc, dans ce plan scolaire, il y a une chose qui est fondamentale et vers laquelle nous tendons en permanence, sans prétendre y arriver à tous les coups, vers une éducation artistique de l'enfant.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.